RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Près d'un Français sur quatre pratique le bénévolat et donne de son temps au sein d'une association. Sport, culture, loisirs, action sociale, éducation populaire, défense de droits, protection de l'environnement. C'est long, hein? Les champs d'engagement sont nombreux. Mais qu'est-ce qui fait courir tous ces bénévoles? On en parle ce matin dans Je pense donc j'agis. Notez qu'en seconde partie d'émission, nous prendrons l'exemple des scouts et guides de France. Ce sont plus de 30 000 bénévoles à partir de 17 ans qui s'engagent pour faire vivre l'aventure scout aux milliers d'enfants, de jeunes et d'adultes en France. On en parlera à 10h. Soyez les bienvenus avec vos témoignages. Dites-nous si vous êtes engagé dans une association et surtout pourquoi. Racontez-nous ce que ça change dans votre vie. Venez nous dire aussi si vous pensez qu'à travers cet engagement, vous contribuez au bien commun, au bon fonctionnement de la société. On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Exceptionnellement, ce mardi, ce n'est pas Anne Kerléo qui nous accompagne, mais Stéphanie Gallet qui prend la relève au pied levé. On pense bien fort à Anne qui a préparé cette émission. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Melchior, bonjour à tous et à toutes. Je pense, donc j'agis. Notre émission est chaque jour un plaidoyer pour l'engagement. Écouter, réfléchir, échanger et pourquoi pas mettre la main à la pâte du monde. Je pense comme j'agis, l'engagement comme un élan vital. Alors aujourd'hui dans cette émission, on s'intéresse plus particulièrement à l'engagement associatif qui connaît ces derniers temps un certain nombre de mutations. On estime qu'il existe en France entre 1,4 et 1,5 million d'associations dont 90% fonctionnent exclusivement avec des bénévoles. Des associations qui ont pris le Covid en pleine face. Selon une enquête IFOP France Bénévolat, elles ont ainsi perdu 15% de leurs troupes entre janvier 2019 et janvier 2022. Mais selon une autre étude d'octobre dernier intitulée « La France associative en mouvement », de nouveaux bénévoles sont arrivés au cours de la crise sanitaire et on assiste ces derniers mois à un retour progressif des bénévoles qui s'étaient mis en retrait. Cette étude estime à 12,5 millions le nombre de bénévoles associatifs en octobre 2022, donc 5 millions actifs chaque semaine. Alors qu'est-ce qui les motive à s'engager? Qu'est-ce qui permet qu'ils tiennent dans la durée? Comment les associations prennent-elles soin d'eux? Quel est leur rapport à la société? De quel type d'engagement la société a-t-elle besoin pour relever les grands défis écologiques et sociaux qui se posent aujourd'hui? Autant de questions, Melchior, que nous allons explorer ensemble pendant une heure.
Et avec nos deux invités qui nous ont rejoints.
Oui, Jean-Baptiste Baudier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bénévole au sein des scouts et des guides de France, où vous êtes le responsable d'une équipe nationale qui a pour nom adulte dans le scoutisme, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Et puis vous êtes par ailleurs psychologue de métier et on s'intéressera avec vous à la question des ressorts intimes de l'engagement. Dire aussi que vous êtes avec nous depuis les studios de RCF La Roche-sur-Yon. Et merci aux Vendéens qui permettent ce duplex. Claire Toury, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du mouvement associatif. Alors le mouvement associatif rassemble 700 000 associations, soit près de la moitié des associations en France. À ce titre, vous êtes membre du Conseil économique et social et environnemental depuis mai 2021. Sinon, vous êtes sociologue de formation, spécialiste des questions d'engagement. Et en 2017, vous avez soutenu une thèse qui portait sur l'engagement des étudiants. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à tous les deux de nous accompagner dans Je pense donc j'agis avec vos témoignages sur l'engagement au 04 72 38 20 23. Alors, on va pas changer les habitudes du mardi puisqu'on va commencer par la chronique Tout est ligué. Et ce matin, nous accueillons Féris Barcade. Bonjour Féris.
Bonjour.
Vous proposez des formations dans les quartiers populaires aux enjeux climatiques, également dans les écoles primaires. En général, vous êtes engagé, Féris, sur les questions climatiques. Mais quels sont les ressorts de l'engagement, d'après vous?
Alors, avant de voir comment favoriser l'engagement, il me paraît indispensable d'analyser son essence. Pourquoi certains s'engagent et d'autres non? Pourquoi certains paraissent si vertueux et d'autres moins? Pourquoi c'est souvent les mêmes qui ont le droit au titre d'engagé? L'engagement peut prendre plein de formes. J'ai rencontré une danseuse ce week-end qui faisait passer son art à travers le prisme de ses convictions, et c'est magnifique. Mais il y a à mon avis des freins, ou du moins des prérequis à l'engagement qu'on doit identifier.
Alors ça veut dire que ce matin vous allez nous faire une théorie de l'engagement?
Oui, un peu. Car il me semble qu'il y a 2-3 prérequis indispensables si on veut identifier le levier pour enclencher l'engagement. D'abord, il y a l'indignation qui s'origine dans le refus de l'existant, dans le refus de la fatalité d'une situation donnée. C'est donc par exemple considérer qu'une souffrance sociale, animale, politique, peu importe, n'est pas intrinsèquement inévitable. Pour accéder à cette indignation, à mon sens, il faut avoir le temps de la réaliser et parfois il faut les connaissances pour la comprendre. Et c'est par exemple pour cette raison qu'on fait de la formation sur les enjeux climatiques dans les QPV. Et la deuxième porte d'entrée, c'est bien évidemment l'expérience dans sa chair d'une situation injuste, par exemple. L'indignation, c'est donc la première étape vraiment cruciale pour l'engagement qui diffère par conséquent de la bonne action ou de la charité. Deuxième prérequis, à mon avis, c'est la confiance en soi. La conviction qu'on peut être utile, qu'on peut apporter quelque chose. Parfois, cette conviction peut venir par imitation. On a vu un proche faire, donc ça nous semble consciemment ou inconsciemment faisable. Mais ça se peut aussi se travailler. C'est pas forcément inné. Et donc, si on n'a pas cette chance, on peut le travailler. Et à mon sens, moi, le Collège citoyen de France m'a aidé et m'a été d'une grande aide à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a des centaines de milliers d'auditeurs, donc je vous invite à aller voir. Et bref, l'idée de ce prérequis, c'est de dire qu'il y a une mission qui est faite pour nous et qu'on est légitime à essayer. Et pour finir, le dernier prérequis, plus compliqué à décrire mais sociologiquement fascinant, c'est la valeur sociale qu'un milieu donné accorde à l'engagement. L'image qu'on va renvoyer, qui ne sera pas la même partout. Cette appréhension sur la manière dont notre engagement sera reçu va parfois conditionner une posture et freiner l'engagement.
Alors une fois ces trois prérequis acquis, Féris, qu'est-ce qu'on peut dire ?
On peut dire que la graine de l'engagement est plantée. Ensuite, pour la mise en mouvement, il y a bien sûr des freins, le temps, l'argent, qui dépendent beaucoup des origines sociales. Mais une fois planté, l'engagement trouvera le moyen de germer. Et je voulais insister sur ces points pour réaliser le caractère très circonstanciel de l'engagement. Personne n'est par nature voué à s'engager ou à ne pas s'engager. Rien n'est gravé dans les étoiles et c'est ça qui est magnifique. Il y a de la place pour tout le monde tant les défis sont grands. Pour conclure, une fois engagé, ce titre douteusement glorieux peut apporter une forme de condescendance envers ceux qui ne le sont pas. Alors souvenez-vous de ma théorie de ce matin pour essayer de guider vers l'engagement.
Merci beaucoup Féris Barkat pour cette chronique Tout est lié que vous pourrez réentendre juste après l'émission sur rcf.fr et puis notez que la semaine prochaine c'est Stécie Algrain qu'on retrouvera pour cette chronique. Alors comme d'habitude ça nous donne un peu de biscuit hein, dans cette émission consacrée à l'engagement. Jean-Baptiste Baudier, je me tourne vers vous. Qu'avez-vous pensé de cette chronique de Féris ?
Bah alors, je la trouve particulièrement intéressante. Hein. Merci Féris Barkat pour ces trois ferments un peu de cette graine. C'est très intéressant parce que c'est pas ce qu'on observe dans le champ des recherches en psycho, et c'est normal. Et je pense que c'est sain aussi d'avoir des prismes différents. On pourra peut-être reparler de ces prismes justement et des théories de l'engagement et de la motivation, notamment qu'est-ce qui pousse des adultes à agir, enfin des adultes et n'importe quel individu d'ailleurs, hein, parce que ça fonctionne aussi très bien chez les enfants et les adolescents. Moi j'en note trois, le sentiment d'autonomie, c'est-à-dire le fait de sentir qu'on a la liberté de poser des choix, que c'est moi qui décide. Le sentiment de connexion sociale, le fait de se sentir proche d'autres, et le sentiment de compétence, le fait de progresser un petit peu chaque jour, d'apprendre de nouvelles choses, de se voir expérimenter. Et ça, je crois que dans une association qui fonctionne bien, qui a des bénévoles qui s'engagent, c'est ces trois ingrédients qu'on retrouve très généralement. Ces trois ingrédients-là, c'est ceux de la théorie de l'autodétermination de Desi et Ryan, parmi les plus grands chercheurs en psychologie sociale.
Claire Touré, vous aussi, vous avez écouté la chronique de Ferhat. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, de réagir ?
Alors oui, je l'ai écouté, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de repartir un peu de c'est quoi l'engagement finalement, si on voulait le définir. Alors bon, je vais pas vous faire un résumé de mon chapitre de thèse consacré à ça, parce que ce serait un peu trop long, mais il y a une définition que j'aime bien, c'est l'engagement, c'est l'expression par des mots ou par des actes d'une indignation, d'une colère, d'une envie.
On en revient à ce que disait Farhad.
Alors on en revient à ce que disait Farhad avec un élément quand même complémentaire, puisque si j'ai bien noté ce qui a été dit, on parle d'indignation et d'expérience. Moi, j'ajouterais aussi l'envie. Je pense qu'il faut vraiment sortir d'une vision trop normative de l'engagement. Il y a plein de manières de s'engager, il y a plein de raisons pour lesquelles on veut s'engager. Par contre, quand on observe les parcours d'engagement et qu'on regarde un peu quelles sont les motivations à s'engager, on observe une chose intéressante, c'est une articulation très subtile entre quête de sens et quête d'épanouissement. Je m'engage parce que je veux trouver du sens, je m'engage parce que je veux en donner, mais je m'engage parce que je veux aussi être heureux, heureuse. Et ça, c'est intéressant parce que ça met en perspective les évolutions des formes d'engagement à travers le temps. Alors, je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais moi, j'identifie trois ères de l'engagement. Je pense qu'il y a une première ère post-Seconde Guerre mondiale, une deuxième ère qui apparaît dans les années 70 avec le tournant de l'individu et qui prend vraiment son apogée avec la chute du mur de Berlin et la fin des grandes idéologies. Et j'ai l'impression qu'il y a une troisième ère de l'engagement qui est en train d'émerger maintenant, autour des très jeunes notamment, parce qu'effectivement, on n'a pas besoin d'être adulte pour s'engager. Chez les très jeunes, il y a un engagement qui est très fort. Autour des très jeunes et autour des grandes causes, transition écologique, égalité femmes-hommes, l'accueil des réfugiés. Enfin, je pourrais développer si vous le souhaitez, mais en tout cas, la question de l'épanouissement et la question du sens, c'est quelque chose qui est très fort et je pense qu'on peut pas mettre de côté ce que ça peut apporter aussi à l'individu.
Jean-Baptiste Baudier, vous, comment vous définiriez l'engagement? Vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Claire Toury?
Oui, alors tout à fait. Hein. Enfin, je rejoins tout à fait ça. Vraiment cette quête de sens et d'épanouissement. Je pense que chaque individu a envie de grandir et il faut trouver des lieux pour grandir. Et je crois que les engagements bénévoles sont des lieux qui offrent une diversité de grandir différents. De ce qu'on peut retrouver dans le cadre scolaire, universitaire, professionnel et peut-être même familial. Et ça, c'est vraiment lié pour moi effectivement au deuxième volet, la quête de sens. Qu'est-ce qui correspond à mes valeurs? Et je crois que si, justement ce qui nous motive et ce qui nous incite à choisir tel ou tel engagement bénévole, associatif, c'est qu'on se retrouve dans des valeurs de l'association, le lieu dans lequel on s'engage, peut-être aussi parfois par indignation, et donc du coup ça fait aussi pour moi du lien.
Ouais. Jean-Baptiste Baudier, est-ce que je peux vous poser une question plus personnelle? Je la poserai aussi à Claire Toury. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager? Est-ce que vous avez souvenir?
Oui, alors ça remonte un peu, mais, mais oui. Je veux dire un truc très bateau, mais qu'on retrouve chez tous les scouts et les guides, peut-être du monde entier, c'est cette envie de transmettre moi aussi ce que j'avais reçu. Bon, mais je crois pas que ça nourrisse un engagement forcément sur la durée. Ça peut être un déclencheur, mais il faut trouver autre chose. Et moi, je crois que ce qui m'a vraiment donné envie de m'engager, c'est d'entendre cet appel un peu des jeunes à se dire, mais et nous, comment est-ce qu'on va nous permettre d'être les acteurs du monde de demain? Et ça, je crois que c'est vraiment là une des clés de la philosophie du scoutisme, de se dire que notre but, c'est quand même de former des citoyens heureux, utiles, actifs et artisans de paix. Et donc, c'est de faire le pari de la génération d'en dessous. Et ça, c'est un truc qui a résonné très fort chez moi, qui a été vraiment très en écho avec mes valeurs. Et je me suis dit, bah ouais, c'est là où il faut que je m'engage. Voilà.
Claire Toury, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager?
Moi, il y a deux choses qui m'ont poussé à m'engager. D'une part, un sentiment très très fort que notre système éducatif était pas adapté, que ça allait pas. Et je rejoins totalement ce qui vient d'être dit, à la différence de l'école, dans les espaces d'engagement, on apprend plein de choses par l'expérientiel et on a une notion une conception de la réussite qui est très différente, on gagne en confiance en soi. Et donc moi, j'ai toujours eu l'impression à l'école, et pourtant, j'allais bien à l'école, enfin j'ai pas eu de problème scolaire, et malgré tout je me réveille encore parfois la nuit en faisant des cauchemars parce que j'aurais raté mes partiels, enfin vous voyez le truc débile, mais je pense que vous voyez de quoi je parle, hein, pour celles et ceux qui...
Et il y a pas ça dans le mouvement associatif.
Mais non, c'est très différent en fait. Et enfin bon, bref, mais c'est un cheminement. Mais en tout cas, ce sentiment que on avait un système éducatif qui était pas adapté, enfin qui n'est toujours pas adapté, qui est hyper anxiogène, qui incite à des parcours linéaires, qui a une seule conception de la réussite, qui vous dit faites des études, obtenez votre diplôme puis vous aurez un CDI à la sortie, et puis sauf qu'entre-temps, il y a eu des crises qui sont passées par là, et cette promesse de l'éducation formelle, elle n'a pas été tenue. Donc c'est un peu ce sentiment d'indignation très fort qui m'a donné envie de m'engager, première raison. Et deuxième raison, c'est aussi le sentiment qui est devenu une certitude, qu'on avait une lecture de la jeunesse et de ce que la jeunesse faisait, la manière dont elle s'engageait, son rapport à la politique, son rapport à la chose publique, qui était totalement biaisé. Et donc tous ces discours, ces idées reçues sur une jeunesse qui serait désengagée, désintéressée de la chose publique, j'avais le sentiment, et je pense que j'ai pu le vérifier, sont totalement faux et totalement réducteurs. Et donc j'avais un peu envie, grâce à la recherche notamment, de montrer que c'était pas vrai, et que l'engagement prenait des formes différentes, et j'avais envie de m'intéresser à ces nouvelles formes d'engagement, justement, qui étaient assez incompréhensibles pour les plus âgés d'entre nous.
On y reviendra sur ces nouvelles formes d'engagement.
Et venez nous parler de l'engagement au 04 72 38 20 23. Dites-nous si vous êtes engagé dans une association. Pourquoi ? Racontez-nous ce que ça change dans votre vie, et si vous avez le sentiment de contribuer au bien commun, peut-être, ou en tout cas au bon fonctionnement de la société. 04 72 38 20 23. On vous attend également dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. On accueille Odile, vous êtes la première de la matinée. Bonjour Odile.
Bonjour Melchior, enchantée de vous parler, je vous adore.
Merci, c'est gentil, on vous écoute.
Alors, moi j'habite Sainte-Consorce et je suis investie dans une association culturelle, comité historique, et je suis engagée aussi au sein de ma paroisse en tant que notaire de paroisse, mais je suis aussi élue municipale. Est-ce qu'on se rend toujours compte, c'est qu'un élu n'est pas payé, s'investit pour le bien des concitoyens. Un adjoint, un maire est payé, mais un conseiller municipal n'est pas payé. Et pourtant, on fait des choses pour nos villageois, enfin, ou que ce soit dans une grande ville, hein, c'est la même chose. Donc, on ne sait pas, parce que des fois, les gens ont un peu tendance à disons, on va dire, en guillemets, critiquer les gens qui font des choses pour leur village. Et moi, je suis dans la commission dans la commission des affaires sociales, culturelles. Donc, on a chacun plusieurs commissions. Et il y a un nombre défini d'élus par village, hein, c'est un pourcentage. Donc, que le village soit petit ou que ce soit une grande ville, il y a toujours le même nombre de commissions, de toute façon. Donc il y a toujours besoin de faire des choses. On n'est pas payé.
Mais c'est intéressant. Gratuit, en fait. C'est intéressant ce que vous avez dit, puisqu'on parle beaucoup des associations depuis tout à l'heure. On n'en a pas parlé d'autres milieux. Merci Odile pour votre appel au 04 72 38 20 23. Claire Toury, il faut pas les oublier aussi, les certains élus qui ne sont pas rémunérés, qui sont bénévoles.
Ah ouais, non, c'est clair, on a absolument besoin d'eux. Et d'ailleurs, les liens entre le monde associatif et les élus locaux sont souvent très forts. Alors, il y a des nuances, évidemment, mais la plupart des associations, ce sont des associations locales qui sont très implantées dans les territoires. Vous le disiez tout à l'heure, plus de 80% des associations sont uniquement composées de bénévoles. Donc, c'est vrai que quand on pense aux associations, on pense aux très grosses. Voilà, les très grosses que je ne vais pas citer d'ailleurs, celles qui sont les plus connues. Mais la plupart des associations, c'est des associations ancrées dans les territoires. C'est des habitants qui s'organisent, des individus qui s'organisent pour monter un projet, pour répondre à une indignation, etc. Et ils peuvent le faire tout seuls, évidemment. Mais quand il y a le soutien de la collectivité, c'est extrêmement précieux. Ça c'est absolument certain.
Et cette notion de bénévolat, donc d'absence de rémunération, elle est essentielle dans la définition de l'engagement associatif.
Oui, alors enfin oui, moi je trouve qu'il faut opposer personne. Dans le monde associatif, vous avez des salariés, vous avez des volontaires, vous avez des bénévoles, et tout le monde a un rôle extrêmement important à jouer. Sauf qu'on n'est pas tous là pour les mêmes raisons. Un salarié, a priori, vous le recrutez pour ses compétences. Un bénévole, c'est différent. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de compétences. Ça veut dire que c'est autre chose qu'on lui demande. Et voilà, il faut que chacun puisse trouver sa place dans l'organisation associative. Aujourd'hui, vous le disiez, hein, c'est presque 1,5 million d'associations en France. C'est un monde en soi, en fait. Le monde associatif, c'est dans tous les champs, tous les domaines. C'est l'éducation populaire, la culture, l'écologie, la jeunesse, les familles, le tourisme social, le sanitaire et social. Enfin bref, partout, il y a des associations partout, et on a besoin vraiment de toutes les forces pour faire tenir ce monde associatif, pour le faire vivre, pour que voilà, il puisse en grande partie contribuer à faire tourner la société.
Jean-Baptiste Baudier, je voudrais revenir avec vous sur la notion de bénévolat au sein des scouts et des guides de France. Je crois que vous avez évolué sur cette question au sein de l'équipe nationale. Vous occupez un poste à titre bénévole. Je crois que ça n'a pas toujours été le cas. Expliquez-nous.
Oui, alors il y a un peu moins d'une dizaine d'années, tous les responsables nationaux, donc tous les chefs d'équipe en charge de politique dans le mouvement, que ce soit celle des programmes éducatifs, de cycle de vie des adultes, etc., étaient des responsables salariés. Parce que c'était beaucoup plus facile, on s'était dit que c'était des gens qui avaient du temps, qui pouvaient mettre en place des choses, etc. Il y a quand même une vraie difficulté à confier la politique d'une association à des personnes qui sont salariées. Parce que faire quand je suis pas d'accord avec, je sais pas, mon équipe de délégation générale, mon conseil d'administration, mon employeur. Donc le choix a été fait de basculer tous ces responsables nationaux bénévoles et de transformer ces postes salariés en des postes de soutien aux responsables nationaux. Et en fait, moi, je trouve que c'est une vraie chance dans ce mouvement de 98 000 adhérents que d'avoir 45 responsables nationaux qui sont bénévoles
et qui, du coup, ont les coups des franches.
Alors complètement, moi, je sais que si jamais je suis pas d'accord avec mon délégué national, et ben en fait, je lui dis, écoute, ton point de vue est intéressant, mais en fait, moi, j'ai envie d'aller par là pour telle et telle et telle raison. Et je sais que je risque pas mon poste. Et en fait, ça donne aussi une grande souplesse dans l'association. Et puis, je voulais aussi revenir sur la question du salariat. Je trouve qu'elle est vraiment très intéressante et on entend souvent, par exemple, chez les scouts et guides de France, mais si jamais on avait nos éducateurs et éducatrices qu'on payait, on en aurait sûrement plus. En fait, il y a des tas de recherches qui montrent que c'est probablement pas vrai et qu'au contraire, quand on introduit une notion de rémunération dans une activité de plaisir, eh bien, à terme, en fait, ça diminue l'engagement des individus. C'est encore toujours les travaux dans cette théorie de l'autodétermination de Desi et Ryan, mais si on donne des casse-têtes à des étudiants qui aiment ça, et on leur dit « faites autant de casse-têtes que vous voulez, puis plus vous en faites, plus on vous en donne », ils vont en faire pendant un certain temps. Et puis si à un bout d'un moment, on leur dit « maintenant on a décidé, on a trouvé des fonds, on a décidé de vous payer pour chaque casse-tête que vous faisiez », alors ils vont continuer. Puis au bout d'un moment, on leur dit « en fait, désolé, on a deux fois moins de budget, donc on va diminuer par deux votre rémunération pour chaque casse-tête. Puis ensuite, on va encore par deux. » Et bien, au bout d'un moment, alors que les personnes aimaient faire des casse-têtes et en faisaient naturellement, elles s'arrêtent. Parce qu'on a introduit cette espèce de notion de récompense. Et donc, d'un seul coup, cet engagement que je donnais, je l'attends en retour de quelque chose. Alors que peut-être que l'engagement...
Vous êtes en train de nous dire que s'engager bénévolement, gratuitement, ça fait du bien et ça augmente le plaisir ?
Alors, oui, et ça augmente même l'engagement. C'est-à-dire que c'est un cercle plutôt vertueux. Justement parce que je me retrouve dans ces valeurs, parce que ça fait sens pour moi, parce que je construis des relations qui sont constructives, etc. Et tout ça, c'est des déterminants du bien-être.
Claire Touré, je vous voyais sourire.
Oui.
Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous nuancez ?
Oui, je veux bien que donner du temps, ça va permettre de trouver du plaisir et de trouver du sens. Et bien sûr, ça, je remets pas du tout ça en question. Après, franchement, les salariés dans le monde associatif, certains sont là parce qu'il y a un contrat de travail, mais il y en a beaucoup qui donnent aussi beaucoup de leur temps et sans qui, franchement, ça tiendrait pas. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment pas opposer les uns et les autres. Et c'est assez marrant parce que selon à quel secteur associatif vous parlez, vous avez des positions qui sont parfois très inverses, très opposées, entre certains secteurs qui ont un peu peur des bénévoles parce que vous comprenez, ils sont pas assez compétents pour prendre les décisions qu'il faudrait prendre, et d'autres qui ont très peur des salariés parce que vous comprenez, si les salariés prennent trop de place, la gouvernance et la gestion des intéressés inhérentes au modèle associatif ne tiendraient pas. Moi, je crois qu'il y a des compétences qui sont différentes, il y a des raisons d'être là qui sont différentes, et ce qui est sûr et certain, c'est que dans les associations où il y a des salariés, pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait une bonne entente entre les bénévoles et les salariés. Mais j'opposerai pas ça. Et surtout, je sais pas si le fait de d'être là, juste, enfin, je sais pas si les valeurs, enfin oui, les valeurs c'est important, mais je suis pas sûre qu'avoir une rémunération empêche d'être engagé, d'être motivé et d'être investi. Et je ne suis pas sûre que ne pas en avoir empêche d'être motivé et d'être investi. Ça, c'est un point. Et dernier point, pardon. parce que je ne sais pas si on allait y venir, mais il ne faut pas non plus qu'on oublie une chose, c'est que le monde de l'engagement, il n'est pas exempt d'inégalités. Hein, tout le monde ne s'engage pas de la même manière. Vous parliez des chiffres du bénévolat. On a, pour ce qui est du bénévolat de gouvernance, qui est quand même un peu dur en ce moment pour nous. On a un bénévolat de gouvernance qui est surtout
assuré. Qu'est-ce que vous appelez bénévolat de gouvernance?
Les responsabilités, le président, le trésorier, le secrétaire général, enfin, celles et ceux qui sont dans la gouvernance de l'association. Ce que je pourrais mettre en face, c'est le bénévolat d'action, de projet. Alors, non
les
pas que ça s'oppose totalement.
Ça
mais chez vous voyez, on voit une augmentation du bénévolat chez les très jeunes. Les jeunes s'engagent, se donnent de leur temps, mais ça les intéresse pas forcément. Et je suis un gros raccourci, je vous prie de m'en excuser, mais ça les intéresse pas forcément d'avoir la responsabilité, les charges administratives et d'être dans la gouvernance de la structure. Et la plupart des gouvernances associatives sont assurées par des personnes plus âgées, par des retraités. Et une des conséquences du Covid, c'est que ces retraités, ces personnes âgées, ont découvert qu'avoir du temps pour elles, c'était plutôt sympa, en fait. Et du coup, s'occuper de leurs petits-enfants, partir en vacances, et puis enfin passer la main. Et du coup, voilà, elles sont dans cette phase où elles passent la main, sauf que les très jeunes qui s'engagent de plus en plus et qui compensent, en fait, cette baisse du bénévolat des plus âgés, ils sont dans l'action et dans les projets. Et donc, on se retrouve avec une difficulté à identifier des bénévoles de gouvernance pour piloter les structures associatives. Alors, il y a plein de raisons à ça. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est le fait que c'est pas un monde exempt d'inégalités. Et il faut avoir du temps pour s'engager. C'est pas le cas de tous. Il faut avoir des moyens. C'est pas le cas de tous. Enfin, c'est plus facile quand on en a. Donc voilà. Enfin, il y a un vrai travail à faire pour que l'engagement soit accessible à tous et pour qu'on sorte de cette opposition entre ceux qui peuvent donner de leur temps gratuitement, on va dire, et puis ceux qui ont besoin d'être indemnisés pour le faire.
Bon, en tout cas, ce qu'on entend, c'est qu'il y a plein de choses à dire sur l'engagement. Ça tombe bien puisqu'on a une heure ce matin. On va continuer d'en parler dans un instant, toujours avec vous deux, Claire Toury et Jean-Baptiste Baudier. Et puis, vous faites comme Odile, hein, vous venez nous parler de vos engagements au 04 72 38 20 23. Dites-nous ce que ça change dans votre vie et puis dites-nous ce que vous faites très concrètement. 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. À tout de suite.
J'adore les oiseaux,
j'adore
en vol synchronisé,
j'adore
la forêt,
j'adore
pousse sur les racines,
j'adore
cachalot,
j'adore
ces sons de cachalot,
j'adore
pangolin,
j'adore
sauver les pangolins,
j'adore.
J'adore, bah ouais, Jojoa et Lieutenant Nicholson. Alors ça, c'est une petite découverte de Stéphanie Gallet. Je tiens à balancer, mais c'était très sympa. Planète, et puis
bah
ça
oui,
parlait
ça
des...
envie de danser, mais oui, voilà.
Et ça parlait d'écologie parce que aussi les jeunes, enfin les nouvelles générations s'engagent énormément pour l'écologie.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Stéphanie Gallet.
Avec nos deux invités, Claire Toury, vous êtes la présidente du mouvement associatif qui rassemble 700 000 associations, soit près de la moitié des associations en France quand même. Et puis Jean-Baptiste Baudier, vous êtes bénévole au sein des scouts et guide de France. Vincent nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Vincent.
Bonjour, bonjour à tous. Merci pour votre belle émission qui fait plaisir. De bon matin, comme d'habitude. Alors moi, je voulais d'abord apporter mon témoignage de bénévole. Et puis aussi, vous posez une question, ou c'est plutôt un commentaire. Je vais d'ailleurs commencer par le commentaire. Il paraît que c'est pas simple de gérer des bénévoles, parce que parfois, il y a ce côté « je suis bénévole dans une association, donc je fais ce que je veux ». Et je trouve que c'est pas parce qu'on est bénévole que, justement, on doit oublier qu'on est là pour travailler ensemble. Et il faut accepter de temps en temps des petits commentaires, des petits reproches, tout ce qui peut finalement nous encourager à s'améliorer, à travailler mieux. Mmh. Voilà, ça je l'ai entendu plusieurs fois dans des associations. Et pour ma part, donc j'étais entrepreneur jusqu'à récemment, j'ai arrêté mon entreprise, donc je suis au chômage. Et comme j'avais du temps, il se trouve que j'habite à Villeurbanne. Il y a une escale solidaire qui a ouvert il n'y a pas longtemps, tout près de la place Wilson. Je suis passé devant et j'ai décidé de donner un petit peu de mon temps. Alors, très égoïstement, c'est parce qu'en fait, je trouve au sein de ce bénévolat du lien social, tout simplement. Et j'apprécie grandement de voir à la fois les passagers et les autres bénévoles avec qui je peux discuter de la pluie et du beau temps, voilà, voir leur sourire, partager des joies, servir les gens. Et donc je reçois vraiment autant que je donne pour les échanges et le plaisir de passer un moment ensemble, de prendre le café, voilà.
Merci beaucoup Vincent. Et les escales solidaires, je précise, hein, ce sont des lieux d'ancrage d'habitat et humanisme, une association aussi qu'on connaît bien sur RCF. Merci beaucoup Vincent. Alors deux choses très intéressantes. Jean-Baptiste Baudier, je me tourne vers vous hein, déjà sur la première partie du témoignage où il disait que des personnes pouvaient dire que c'était pas simple de gérer des bénévoles et pourtant il faut qu'on arrive à travailler ensemble.
Oui, merci pour cette remarque ou cette question. Je crois que l'engagement bénévole ne nous dispense pas de place et de rôle clair. Et justement, je crois que c'est au contraire une des choses qui fait peut-être que le bénévolat se passe bien, c'est qu'il y a une mission qui est donnée. Une mission peut-être dans un temps donné, avec un jeu de mandat. Moi, je trouve très important les temps des mandats dans les associations, de se dire qu'on est là pour une période et pour des actions spécifiques. Et en tout cas, chez les Scouts et Guides de France, chaque adulte qui nous rejoint reçoit une lettre de mission qui est discutée avec son responsable. Et donc, du coup, ça permet de bien poser les choses, tant en termes de qu'est-ce qu'on va te demander cette année, mais aussi combien de temps on va te demander cette année. Et ça, je crois que c'est important pour les deux parties, par exemple, parce qu'on sait aussi qu'on peut avoir tendance à demander beaucoup. Et je crois qu'il faut qu'on soit ouvert. Si on veut être ouvert à toutes et tous, on a vu que le temps, c'était un élément particulièrement important. C'est peut-être une des difficultés des grosses associations que d'accepter des gens qui peuvent donner très peu de temps, quelques heures par-ci par-là. Comment est-ce que je peux m'engager moi aussi quand j'ai très peu de temps, quand j'ai une vie de famille très pleine ou alors que j'ai besoin d'avoir un travail qui me prend tout mon temps pour X ou Y raison. Donc je crois que voilà, ce cadre de mission, il est extrêmement important et il définit les rôles et compétences de chacun. Et donc ça permet que on respecte bien et qu'on ne puisse pas outrepasser nos fonctions.
Et Claire Toury, comment est-ce qu'on prend soin des bénévoles quand on est, entre guillemets, un manager dans une association? Parce qu'il y a un mot, on ne l'a pas prononcé, mais il revient depuis quelques temps, c'est le mot de burn-out aussi dans le bénévolat.
Moi, je pense qu'il faut d'abord les écouter. Moi, je pense que ça, c'est important. Je vous parlais tout à l'heure de l'évolution des formes d'engagement. On observe quand même quelque chose qui n'a pas encore été intégré par tous. C'est une désaffection vis-à-vis des structures au profit de la cause. C'est-à-dire que si je reprends un peu les origines, enfin la première ère de l'engagement, vous aviez trois choses. Vous aviez un engagement très intense dans une structure pour une cause. Donc vous étiez militant d'un parti politique, d'un syndicat, d'une grande association. Et vous alliez vous sacrifier votre individualité pour cette grande cause, et vous alliez sacrifier votre individualité pour un collectif. Donc vous veniez et vous acceptiez d'une certaine manière que, de vous fondre dans le moule
d'être
et de faire ce
soldat.
Qu'on vous demandait. Voilà. Enfin, je suis un peu caricatural encore une fois, mais militant, c'est ça au départ. Hein. C'est il y a une dimension militaire. Et le tournant des années 70, le tournant des individus, ces individus qui veulent définir pour eux-mêmes ce qu'ils sont, faire des choix dans leur vie, etc. Plus la chute des grandes idéologies qui fait prendre conscience que se sacrifier pour un tout collectif, c'est pas forcément si idéal que ça. Décident de continuer à s'engager, mais de le faire pour une cause. Et donc, ils refusent de sacrifier leur individualité pour un tout collectif. En gros, si je le dis plus simplement, c'est pas parce que je vais adhérer dans une association que je vais totalement me plier à ce que l'association attend de moi. Et donc, du coup, je joue le jeu. Donc, je rentre dans la structure associative. Ça veut dire que je suis là parce que je partage un certain nombre de valeurs.
Mais
parce
si ça me plaît pas, je vais aller voir dans une autre
association. Si ça me plaît pas, je vais aller ailleurs. Et ça, c'est vraiment important. Je m'engage d'abord pour une cause. Et donc, du coup, ce qui est indispensable pour moi, pour les acteurs associatifs, pour les structures associatives, mais plus généralement pour les structures, les corps intermédiaires en général, c'est de bien prendre en compte les attentes, les besoins des bénévoles qui viennent donner de leur temps. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas toujours aux bénévoles de s'adapter à la structure, c'est aussi à la structure de s'adapter aux bénévoles. Quand je dis ça, c'est pas aussi simple, hein. Il y a des structures qui sont très organisées, il y a beaucoup de monde, et donc mettre les choses en mouvement, ça prend du temps, mais il faut essayer de trouver un moyen, en tout cas, de répondre aux besoins, aux attentes des bénévoles. Ils donnent de leur temps, ils viennent parce qu'ils ont envie de porter un projet, de défendre une cause, de faire plein de choses, pour tout un tas de raisons, mais ils viennent pas si on n'est pas prêt à les entendre.
Jean-Baptiste Baudier, comment on fait concrètement au quotidien pour que ça se passe bien, pour prendre soin des bénévoles, mais aussi quand on est bénévole pour articuler sa vie de famille, sa vie perso et peut-être sa vie professionnelle et aussi sa vie de militant associatif? Est-ce qu'il y a une règle?
Je vois deux clés de réponse. En tant que responsable national de la politique adulte dans le scoutisme pour les scouts et guides de France, moi j'ai vraiment envie que nos responsables d'équipe puissent développer ce qu'on appelle le modèle PERMA. C'est un des modèles des déterminants du bien-être de Seligman. Et donc dans ce modèle PERMA, il y a cinq grands ingrédients. Il y a le P, c'est pour les émotions positives ou les émotions agréables. Comment est-ce que je m'assure en tant que responsable que les personnes qui sont avec moi, elles vivent des choses agréables? Et je pense, je prends mon exemple, on peut se dire dans le scoutisme, quand je suis éducateur ou éducatrice, je suis avec des jeunes, je joue, je fais des activités, etc. Je vis plein d'émotions agréables. Et puis après, quand je passe sur des fonctions plus de support, de politique, etc., mon engagement aujourd'hui, c'est plutôt m'enfermer dans une salle un week-end par mois et faire des visios en soirée. Comment est-ce que je continue de cultiver aussi cette question d'émotions positives? Le E de PERMA, c'est l'engagement. L'engagement au sens de comment est-ce que je lis mes actions avec mes valeurs. Voilà. Et donc du coup, ça nécessite aussi de se dire... Et je crois qu'y compris dans une association qui partage des grandes causes avec lesquelles je suis en accord, est-ce que mes actions concrètes du quotidien, elles sont en accord avec mes valeurs. Et il y a des vraies différences. Je peux m'engager dans une grande association caritative et ce qu'on me demande de faire ne soit pas en accord avec mes actions, mes valeurs, pardon, dans mon quotidien. Le R, c'est la notion de relation et notre auditeur le disait tout à l'heure. Je crois que les relations, c'est vraiment important. Comment est-ce que je construis des relations positives, constructives, etc. Et ça, on voit que ça lie, ça fédère. Le M, c'est la notion de sens. Bon, on le voit bien à nouveau dans l'engagement associatif ou bénévole. Et puis le A, c'est la notion d'accomplissement. Comment est-ce que je progresse au quotidien, et je crois que c'est pareil, il faut pouvoir, je parlais du jeu des mandats, mais renouveler régulièrement son engagement à travers de missions différentes, variées, pour apprendre de nouvelles choses, progresser, etc. Donc ça, quand on a des responsables qui cultivent ces déterminants, qui s'assurent que les missions qu'on confie et que le cadre de travail est un cadre bien traitant, valorisant, en accord avec les valeurs des personnes qui permettent de vivre des émotions positives, je crois que c'est déjà un premier pas. Puis après, vous me posiez la question de comment est-ce qu'on s'assure aussi personnellement de son équilibre. Moi, j'aime bien le... Vous allez me dire, je suis un type qui sort plein de théories, mais c'est ma formation de chercheur. Moi, j'aime bien le modèle dualiste de la passion de Valéran qui nous dit qu'on a deux grandes formes de passion. Une passion harmonieuse, qui est une passion qui est bien alignée dans notre vie, qui répond à des choses qui sont importantes pour moi et qui prend la juste place. Et puis, il y a ce qu'on appelle la passion obsessive. Et la passion obsessive, elle se développe quand en fait je m'engage pas pour les bonnes raisons, quand je m'engage pour des questions de désirabilité sociale, de pression familiale autour de moi. Je pense à, on parlait de l'engagement politique, mais parfois c'est pas si simple de refuser un engagement qui est présent dans une famille très importante. Dans le scoutisme, on est un parfait exemple. Hein. Ou alors au contraire, quand mon environnement autour de moi, mon environnement naturel, ma famille, mon travail, etc., me satisfait plus. Du coup, en fait, je vais avoir peut-être une tendance à investir énormément, en fait, mon engagement associatif. Et du coup, ça va grignoter et prendre toute la place. Et ça, moi, je m'y retrouve bien dans un témoignage personnel. Hein, quand dans ma thèse, ça allait pas très bien, j'avais facilement tendance à donner une, deux journées pour les scouts et guides de France. Et en fait, c'est pas très juste parce que c'est pas ce qu'on attend de moi dans un engagement bénévole.
Claire Thoury, une réaction ?
Ouais. Alors, moi, je partage totalement un point qui est la nécessité d'incarner les valeurs qu'on défend. Ça, je pense que c'est, enfin, je sais pas exactement comme ça que vous le disiez, mais c'est ce que j'entends en tout cas. Voilà, si on donne du temps, si on vient passer du temps dans une structure, il faut que ce qu'on porte soit en cohérence avec ce qu'on dit. Enfin, ce qu'on fait soit en cohérence avec ce qu'on dit. Ça, je pense que c'est vraiment très très important. La notion d'exemplarité, ça veut pas dire être parfait, hein. Ça veut dire qu'on fait ce qu'on dit et donc on incarne vraiment les valeurs qu'on défend. Ça, je pense que c'est vraiment très très important, notamment dans une perspective de renouvellement de nos organisations, parce que les plus jeunes d'entre nous ne nous pardonneront pas si on n'est pas en capacité de faire ça. Mais on pourra y revenir. Par contre, là où je suis vraiment pas d'accord du tout, c'est sur le fait qu'il y aurait des mauvaises raisons pour lesquelles on s'engage. Il y a plein de raisons différentes pour lesquelles on s'engage. Je vais essayer de faire une typologie de l'engagement dans ma thèse. Il y avait 7 types d'engagement et il y avait un engagement que j'appelais l'engagement pansement. Oui, il y a des gens qui s'engagent parce que ils ont vécu des traumatismes, parce que c'est un moyen d'éviter de se confronter à d'autres choses, etc. Mais moi, jamais de la vie, je leur dirais que c'est pas un bon engagement ou que c'est une mauvaise raison de s'engager. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Enfin, on peut avoir des désaccords, mais du coup, puisqu'on peut débattre, je me permets. Hein. Mais je pense qu'il faut vraiment sortir des discours trop normatifs sur l'engagement entre ceux qui s'engagent pour les bonnes raisons, ceux qui s'engagent pour des mauvaises raisons, ceux qui donnent du temps pour les bonnes structures, d'autres pour les mauvaises structures. Enfin, je crois que c'est vraiment très important de pas avoir, enfin, d'essayer de s'émanciper de ce type de discours si on veut pas renvoyer dos à dos des individus qui pourraient s'engager pour tout un tas de raisons différentes. À la fin, on a quand même besoin de cet engagement-là, et si jamais les uns et les autres y trouvent leur compte, et ben tant mieux.
Jean-Baptiste Baudier, ce qui est peut-être important, c'est soi-même de savoir pourquoi on s'engage. Après, on sait que c'est positif pour l'association.
Je voulais juste revenir sur ce que disait Claire Thoury. Alors, soit je me suis mal exprimé, soit j'ai pas été bien compris, je m'en excuse. Je crois pas qu'il y ait de mauvaise raison de s'engager. C'est plutôt quelles sont les pressions externes que je peux subir. Et je crois pas qu'un engagement subi Et je pense à des, je vais pas prendre le modèle des adultes, mais je vais prendre le modèle des enfants, à qui on dit, mon fils t'ira faire du football, ou t'ira faire du scoutisme. Et c'est comme ça, parce qu'en fait, on a tous et toutes été scouts, on a toutes et tous fait du football, du tennis, etc. En fait, c'est pas une bonne raison. Et si jamais je le fais pour faire plaisir à mes parents, je crois pas que ce soit quelque chose qui me nourrisse personnellement et qui me cultive. Par contre, je peux très bien effectivement m'engager parce que mon engagement bénévole me donne des sources de reconnaissance et que j'en ai besoin personnellement parce que c'est peut-être des sources de reconnaissance que je trouve pas dans mon travail. Par exemple, ou dans d'autres lieux. Et ça, c'est pas du tout des mauvaises raisons, bien au contraire. Donc je parlais bien de pression extérieure et pas de motivation en tant que telle.
Et là, Claire Toury acquiesce, mais on a un auditeur qui a bouton,
oui,
je crois.
Bah c'est Daniel qui patiente depuis quelques minutes. Bonjour Daniel.
Bonjour à toute l'équipe.
Allez, on vous écoute.
Voilà, donc je fais partie depuis 20 ans de l'aumônerie catholique de Cherbourg. Et par contre, je suis un petit peu frustré maintenant. Depuis 2011, on n'a plus le droit de rentrer dans toutes les chambres comme on le faisait auparavant, à cause de la laïcité, n'est-ce pas ? Alors, si bien que là, il faut demander aux infirmières si une personne désirerait nous recevoir. Alors, moi, je me permets, mais c'est moi, hein. Quand une porte est ouverte, vous voyez, c'est surtout l'été, là, c'est agréable, et je veux dire, je peux vous dire un petit bonjour ? Bah oui, entrez. Et je me rappelle de cette dame-là, qui avait à peu près un petit peu plus âgé que moi quand même, qui m'a dit, mais monsieur, mais j'ai aucune visite. Ah, mais si, revenez. Vous voyez, c'était vraiment très touchant, je vous assure. Et puis un autre cas que j'ai eu, et là c'était formidable, il y avait toute l'équipe, il y avait cette dame-là qui était allongée, les enfants, puis dit, vous savez que maman est très pratiquante, mais elle a promis à son papa qu'elle a vu noyer devant elle, enfin c'est son papa qui avait dit, tu ne seras jamais baptisé. Mmh. Et les enfants, eux, ont été baptisés de cette dame-là, et on a pu faire le baptême de cette dame-là qui est décédée 3 jours après.
Alors, Daniel, merci beaucoup pour votre témoignage. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pas forcément les questions de laïcité, hein, même si ça pourrait faire l'objet d'une autre émission, mais c'est vraiment sur le bénévolat. Ce qui est intéressant dans votre témoignage, Daniel, c'est la considération, finalement, l'utilité sociale des bénévoles, Claire Toury.
Oui, alors oui. Enfin, on a besoin des bénévoles, ça c'est clair. Et moi, ce que je retiens surtout du témoignage, c'est la question du lien social.
Ouais.
On se rend compte quand même que il y a des personnes, il y a des endroits où des situations d'isolement qui sont très très forts et où s'il n'y a pas d'association, s'il n'y a pas de bénévoles, s'il n'y a pas d'individus, de collectifs, disons, pour s'organiser, pour rendre visite à des personnes âgées, pour aider les plus démunis, enfin vraiment pour intervenir dans ces situations d'isolement social, c'est catastrophique. Déjà qu'avec une mobilisation très forte de la part du monde associatif, on a des ruptures de liens parfois qui sont très lourdes et très complexes. Je pense que ça, c'est un élément très fort. Et au lendemain de la Journée mondiale du bénévolat, puisque c'était hier la Journée mondiale du bénévolat, moi, ce que j'ai envie de dire aux bénévoles, à celles et ceux qui nous entendent, qui nous écoutent, c'est qu'on a vraiment, vraiment besoin d'eux et que le temps qu'ils donnent et le lien qu'ils permettent de créer, c'est hyper précieux dans la société dans laquelle on vit
aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en France, notre société, elle tient essentiellement par les bénévoles ?
Alors, elle tient grandement grâce au monde associatif, ça c'est clair. Mais je le dis, je dis pas ça par corporatisme, parce que c'est vrai en fait. Enfin, les associations, moi j'aime bien dire ça, c'est les forces du premier kilomètre et du dernier kilomètre. Le premier kilomètre, ça a quelque chose d'assez positif finalement. Enfin, c'est positif à chaque fois, mais c'est le sens où les associations, c'est des individus qui s'organisent. Donc ça vient vraiment du terrain. C'est des individus qui ont identifié un problème et qui essaient de s'organiser pour trouver une solution. Donc ça vient des habitants eux-mêmes, ça vient des individus eux-mêmes, et les solutions qui sont proposées sont forcément plus acceptées que d'autres puisqu'elles viennent des personnes concernées. Donc ça, c'est quelque chose de très important. De façon très concrète, par exemple, c'est se rendre compte qu'il y a un jardin abandonné derrière chez soi et qu'on pourrait en faire un jardin partagé pour faire vivre la communauté, le quartier, etc. autour de ça. Par exemple, mais il y en a d'autres. Mais c'est aussi les forces du dernier kilomètre. Ça veut dire qu'il y a des endroits, il y a des territoires où s'il n'y a pas d'association, il n'y a plus personne. Je pense à l'aide à domicile en milieu rural. S'il n'y a pas de secteur associatif, s'il n'y a pas d'organisation associative pour intervenir, il n'y a plus personne. Et je pense à ça, mais je pense à d'autres. Enfin, on parlait de l'isolement social des personnes âgées. On parle, je sais pas moi, l'organisation de la vie de certains collectifs, pardon, les associations sportives, les associations culturelles.
Mais justement, Claire Toury, comment est-ce que cet engagement associatif, il doit s'articuler avec le rôle de l'État, avec les pouvoirs publics, parce que parfois, ça devrait être à l'État de prendre en charge ce dont s'occupent les associations.
Alors oui, il y a des associations qui ont des délégations de services publics. Hein, dans ce cas-là, c'est très organisé, c'est très cadré. Je pense que parfois, c'est intéressant que le monde associatif fasse des choses, même si l'État devrait le faire. Parce que c'est une manière différente de faire les choses. Hein. Le monde associatif, voilà, c'est des gouvernances différentes. Il y a une agilité que n'a pas l'État, et c'est très bien. Par contre, nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'on attend un État social quand même un peu plus fort que ce qu'il n'est aujourd'hui. Il y a certains territoires. Je suis allée dans les quartiers nord de Marseille, par exemple, au mois de janvier l'année dernière, pour le CESE, et j'ai échangé avec des jeunes dans un centre social géré par une association. Eh ben, s'il n'y a pas de centre social dans le quartier, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est pas normal, en fait. C'est formidable qu'il y ait une action associative. C'est formidable que ce centre social s'organise et puisse proposer des choses aux jeunes.
Mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas de service public.
Qu'il n'y ait absolument rien d'autre. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on dénonce. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut remplacer les associations par des services publics partout. Parce que je crois que l'action associative, elle est très différente. Elle est complémentaire, en tout cas, de l'action de l'État. Et donc, l'action associative, elle permet aussi de faire évoluer l'action publique. Il y a plein d'innovations qui viennent du monde associatif. Je vous en prends. Je prends un exemple, le service civique. Le service civique, tout le monde connaît a priori, hein, politique publique de jeunesse, largement plébiscité aussi bien par les jeunes que par les structures que par la société, qui permettent à des jeunes entre 16 et 25 ans ou 30 ans pour celles et ceux en situation de handicap, de donner de leur temps entre 6 et 12 mois, au moins 24 heures par semaine, et de recevoir une indemnisation pour ce volontariat. Ça a 10 ans, ça date de 2010 cette loi. Ça vient de qui? Ça vient du monde associatif. C'est des associations qui se sont, enfin, c'est des bénévoles, des individus qui se sont organisés, qui ont créé une association et qui ont expérimenté ce modèle-là. Et si jamais ils ne l'avaient pas fait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, il faut protéger l'action associative, sa capacité d'innovation. Mais c'est pas normal que ce soit la seule, parfois, à intervenir.
Jean-Baptiste de Baudier, une réaction sur l'essence de l'action associative et sur son utilité sociale?
Oui, alors je rejoins tout à fait hein, ce que disait Claire Toury. Je crois que les associations, elles sont vitales dans la société pour les missions qu'elles portent, mais aussi pour permettre à chacune et à chacun de s'engager et d'expérimenter justement cet engagement si jamais il le souhaite. À nouveau, on le disait dans une grande variété de possibles et que le modèle aujourd'hui sociétal permettrait peut-être pas autrement par la ligne qu'on prend quand on choisit à 18 ans des études où on s'engage dans un domaine particulier. Le modèle associatif, il permet d'expérimenter une forme de créativité énorme et je crois que c'est vraiment vital pour la société.
Vous voulez réagir, Claire Toury?
Oh ouais, moi je partage à 100% ce qui vient d'être dit. Enfin, l'action associative, elle permet l'innovation à condition qu'elle soit soutenue quand même. Hein. Ça, je vais quand même le dire. Je disais, on veut un État social, voilà. On veut un État qui fait confiance. Ça, on pourra y revenir sur la question des libertés associatives. Mais on veut aussi un État qui soutient. Et un État qui soutient, enfin en tout cas des pouvoirs publics qui soutiennent, ça veut dire privilégier la subvention aux appels à projets, par exemple, c'est quelque chose au marché public, on va dire. Pourquoi? Parce que la subvention, par exemple, c'est soutenir l'action associative, c'est permettre à l'association d'avoir une sécurité financière pour mener des actions, des projets, et puis pour que émerge aussi, grâce à cet ancrage territorial fort, grâce à cet ancrage dans le réel qui est hyper puissant, en fait. Enfin, c'est un des rares espaces où on a cet ancrage dans le réel, là, encore aujourd'hui. Il y a des innovations qui puissent être portées, produites, accompagnées.
Alors, on est dans un temps très particulier, hein, face à des défis écologiques, sociaux très importants. Jean-Baptiste Baudier, ça sera la conclusion. Hein. Comment, quelle place a joué le mouvement associatif, les associations dans ces défis qui nous attendent?
Je crois, moi, je vais faire le pari de la jeunesse et celui, effectivement, de cultiver une génération citoyenne qui a envie de s'engager. On le voit avec les mouvements. Enfin, Claire Toury le disait, hein, les jeunes s'engagent et s'engagent de plus en plus. Et je crois que c'est tant mieux parce que c'est de toute façon eux qui feront le monde de demain.
Claire Toury, le mot de la fin.
Ouais, alors je vais parler aussi des jeunes. Moi, je trouve que, enfin, c'est ce que je vous disais, je pense qu'on est en train de basculer dans une nouvelle ère de l'engagement. Une ère autour des très grandes causes climatiques, d'égalité, d'accueil, vraiment de dignité. Je pense que c'est vraiment très très important que ces très grandes causes, elles soient portées, elles sont portées par ces jeunes-là. Pour ça, il faut du collectif, mais il faut aussi de l'action, de l'efficacité. Et donc, voilà, moi, je ferai aussi le pari de la jeunesse, pas seulement de la jeunesse, parce qu'il faut qu'on travaille tous ensemble, mais je suis malgré tout assez optimiste.
Et le soutien de l'État, on l'a compris.
Absolument.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin dans Je pense. Donc, j'agis Claire Toury. Je rappelle que vous êtes la présidente du mouvement associatif qui rassemble 700 000 associations en France. Vous êtes également membre du Conseil économique, social et environnemental depuis mai 2021. Merci Jean-Baptiste Baudier également pour votre participation bénévole au sein des Scouts et Guides de France. Et merci à l'équipe de La Roche-sur-Yon qui vous accueillait ce matin en studio. Et merci Stéphanie Gallet d'avoir relevé le défi comme ça au pied levé. Et puis on merci.
C'est ma jeunesse.
On remercie Anne Kerléo et on pense bien fort à elle. On va se retrouver dans un instant. Alors, on a un petit peu parlé des scouts, on va encore plus en parler dans la seconde partie de Je pense, donc j'agis, puisque 30 000 bénévoles quand même hein, chez les scouts. On en parle avec vos appels dès maintenant au 04 72 38 20 23. A tout de suite.